première.
Devine qui vient dîner. Michel Durand-Valade.
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Il y a des rencontres émouvantes avec des humains, bien sûr, mais plus encore, me semble-t-il, avec des animaux. Plus encore parce que cette émotion ne passe par aucune forme d'intellectualisation ou de volonté de séduction, ne passe ni par les mots, ni même par les gestes. Elle est une rencontre du troisième type à l'état pur, se limitant souvent à un échange de regards, d'un regard pénétrant et impénétrable, dont jamais nous ne pourrons saisir la profondeur et ce qu'elle cache. Rencontre aussi aux impressions aiguisées par le danger, parfois parce que l'animal, voyez-vous, certains en tout cas se fichent bien pas mal des lois, des tribunaux, des prisons, de la morale. L'animal, s'il a faim, s'il a peur, si vous le dérangez, lui ou sa famille, ou ses enfants, impunément, l'animal vous élimine. Comme de notre côté, d'ailleurs, nous sommes capables d'éliminer d'un coup de tapette une inoffensive mouche. Pas de loi chez l'animal sauvage. C'est tout cela, plus le sentiment d'un paradis perdu qui fait que certains d'entre nous dédient leur vie à l'animal, à la nature, à leur fréquentation, leur observation, et en tirent parfois de belles, mais aussi de tristes conclusions. Bonsoir Daniel Rohrbacher.
Pardon. Bonsoir.
Il faut que je m'habitue. Rohrbacher. Daniel Rohrbacher. Nous nous étions rencontrés en 2009.
C'est juste.
Je crois, autour de vos impressions arctiques. C'était un très beau livre de textes, de pensées, de photographies, de dessins. Autant de choses que vous êtes capable de faire. Cette fois-ci, vous êtes reparti dans le Grand Nord pendant 4 mois, d'avril à juillet, pendant les 4 mois où il fait jour tout le temps, je suppose.
Il fait jour tout le temps, c'était 3 mois, oui.
Ouais. Oui, c'est 3 mois de journées continuelles, enfin, du moins dans les régions que vous aviez choisi d'explorer, avec un fil, pas rouge, mais totalement blanc, l'espoir d'une ou de plusieurs rencontres avec l'ours polaire. Alors je reviens un petit peu en arrière, on s'était vu 2009, c'est quand même pas tout à fait récent. Pourquoi cette attirance pour le désert froid, la glace, le vide, le silence et les ours, et les autres compagnons arctiques d'ailleurs?
Ça, c'est racine, ça, dans plein d'endroits différents. Le premier, je pense, c'est l'amour de la montagne, de la neige, de la glace. Ça, c'est devenu de mon papa. Tout petit, il m'a emmené en montagne. Je pense que ça s'est resté.
Oui, mais il y en a plein ici.
Oui,
obligé
mais
d'aller chercher
la
si
glace,
loin.
Justement, la neige, la glace. Et puis après, il y a eu un voyage qu'on a fait. Alors, il y a aussi quelque chose, une idée fixe comme ça. Quand j'étais tout petit, je voulais aller en Alaska. Alors, ça, j'ai de la peine à expliquer pourquoi, mais on l'a fait comme voyage de noces avec Martine.
Oui, je me souviens.
Et puis alors
vous
là-bas,
raconté ça.
On a eu le premier contact avec les grizzlies, avec les ours noirs. Toujours des rencontres extrêmement rigolotes, comme par exemple quand on a traversé une fois un pont très très étroit, 1 mètre, 1 mètre 50, comme ça suspendu sur une rivière en crue. Et puis quand on était bien au milieu, un ours noir a commencé à traverser de l'autre côté, lui aussi. Alors on a plein de rencontres comme ça.
Et alors?
Ah, bien pour finir, on a. Alors je savais pas trop s'il fallait partir au pas de course ou sortir l'appareil photo. J'y connaissais vraiment rien du tout. Et pour finir, on a battu retraite. Et à ce moment-là, il y a d'autres touristes comme nous qui arrivaient aussi de l'autre côté du pont, et c'est eux qui ont plutôt eu affaire avec cet ours noir après, donc nous on s'en est bien tiré. Mmh. Enfin, on a eu beaucoup de rencontres comme ça, et quelquefois aussi on a plutôt fui, c'est-à-dire en arrivant sur des sites où on voulait monter la tente, on voyait qu'il y avait une femelle avec ses enfants, avec ses jeunes, et puis comme on n'avait pas d'expérience, on repartait. Et ça me restait vraiment en travers de la gorge, de pas rester sur place. Et petit à petit, cette envie de rencontrer les ours d'une manière générale, mais plus tard, après l'ours blanc, c'est devenu très très fort. Quoi. Mmh. Et puis j'espère que ça va rester longtemps très fort au fond de mon cœur.
Il y a peu de chances que ça disparaisse, mais oui. Surtout quand on les a vus, je crois qu'on ne s'en défait plus.
Ouais, ça fait que d'empirer cette maladie, oui.
Probable, c'est pas une maladie, arrêtez. Donc vous êtes parti 3 mois dans l'archipel de Svalbard, vous allez nous dire où c'est. Nous allons parler de ce voyage effectué à pied, en kayak, à ski, en avion aussi un petit peu quand même.
Bien sûr, ouais.
Mais auparavant, j'aimerais que vous nous présentiez votre invité.
Alors, il s'agit de Dominique Gachou. Sur sa carte de visite, on peut lire qu'il est directeur distribution énergie du groupe EA Fribourg. Puis en fait, grâce à Dominique, j'ai eu la chance en 2007 d'organiser vraiment une magnifique expo. Enfin, moi, j'ai trouvé vraiment super une exposition au Kaléidoscope. C'est dans les murs de son entreprise. Et puis, il n'y a pas seulement le fait qu'on avait cette exposition là-bas, mais en plus, au cœur de l'exposition, on pouvait organiser des projections de films pour le public qui venait le dimanche gratuitement. On a fait ça tous les dimanches pendant 6 semaines. On a aussi organisé une table ronde où on a invité des spécialistes, des questions qui nous intéressaient, le climat, la protection de l'environnement. Et donc, ça a été une exposition vraiment très riche. Et puis, pendant ce temps d'exposition, moi, j'ai vraiment habité de plus que j'ai pu ces locaux. Très souvent, on se rencontrait le samedi matin, le dimanche soir, tard pendant la semaine. Puis là, je savais bien que c'était le cas, mais j'ai clairement pris conscience que c'était grâce à ses efforts, à son travail, aussi celui de ses collaborateurs, que moi j'avais la chance d'être dans ces locaux là-bas qui étaient extraordinaires et puis qu'il fallait vraiment que j'en fasse quelque chose de bien. Alors, en plus, ils ont encore gardé une pièce à la fin de l'exposition. Donc, depuis ce moment-là, pour moi, c'est devenu, on peut dire, le groupe et Dominique aussi, les mécènes de mon travail. Donc, ils ont soutenu à ce moment-là, en tout cas, très, très fortement mon travail. Et puis, c'est pour cette raison que j'ai envie ce soir de partager cette soirée qui est vraiment géniale avec lui. Et puis, parce que justement, s'il endosse cette étiquette ou ce rôle ce soir de mécène, c'est aussi quelque chose qui doit aller dans les deux sens. C'est un échange, c'est un partage. Et de mon côté, je tiens à aussi pouvoir offrir quelque chose, c'est-à-dire, par exemple, mes images pour leur communication, ou tout à coup, une fois, quelques images projetées pour les collaborateurs un soir à Noël, ou des moments sympathiques comme celui-là, parce que c'est important que ça aille dans les deux sens, justement. Et comme je sais que mon activité, c'est pas une activité qui est vitale, qui est indispensable, bien loin de là, un petit peu comme encore moins indispensable, je dirais, que d'autres comme le cinéma, des activités artistiques, donc, ou le théâtre. Pourtant, souvent dans mes expositions ou dans les présentations dans les écoles, on me dit, mais c'est bien ce que vous faites, il faut continuer à sensibiliser les gens, vous leur donner de nouvelles horizons, enfin, continuez à le faire, même si c'est difficile, accrochez-vous. Et puis pour ça, il faut bien que j'ai de temps en temps des personnes qui sont attentifs à ce qui les entoure et qui le font, quoi. Voilà.
Bonsoir Dominique Gachou.
Bonsoir.
Bonsoir. Je vous pose une question idiote, mais vous avez déjà vu des ours blancs en vrai, vous ?
Non, moi, j'en ai pas vu en vrai. Non.
Jamais vous n'avez été tenté. 2007-2011, ça fait 4 ans, 4 années de collaboration. Vous auriez pu être tenté et demander à Daniel Rohrbacher de l'accompagner dans l'un de ses voyages. Ça vous a jamais tenté ?
Non, ça ne m'a pas tenté. Je suis fasciné par ce qu'il me raconte. Chaque fois qu'il rentre ses expéditions, il m'en parle. Depuis cette exposition, on a gardé des contacts étroits, on est devenus des amis, mais j'ai pas ce même pôle d'intérêt, je dirais, que là, Daniel Rohrbacher, mais j'apprécie beaucoup tout ce qu'il fait et je suis très heureux que Groupé ait pu soutenir sa démarche en mettant à disposition des espaces pour qu'il puisse faire connaître et faire passer son message, qui est absolument extraordinaire.
Alors précisément, quels sont les... Pourquoi une entreprise, à un moment, s'attache-t-elle à un artiste? Ou alors, en l'occurrence, là, l'étiquette est difficile à poser sur Daniel Rohrbacher, parce qu'en même temps, un voyageur, photographe, il écrit, il fait des expositions, il taille des objets, on va voir ça, dans le bois, donc c'est pas si simple. Mais qu'est-ce qui a motivé cette envie de l'aider?
Alors, il y a deux possibilités. Soit l'artiste ou la personne intéressée à faire une exposition s'adresse à nous et puis nous regardons si ça s'inscrit aussi dans notre démarche. Dans ce cas-là, typiquement, une démarche de développement durable et son message s'inscrit parfaitement dans ce développement durable. Ou bien alors aussi, on observe dans l'environnement des développements ou des artistes à qui on souhaiterait offrir cette plateforme pour pouvoir présenter leur
travail.
Voilà. Et avec Daniel, je crois que c'est lui qui avait pris contact avec nous. Et j'ai eu le privilège, je dois dire, de faire le discours d'introduction lors du vernissage. Et c'était un immense plaisir aussi de préparer avec lui tout ce discours. Et c'est là que j'ai découvert ces pays qu'il visite. C'est là que j'ai découvert son admiration et sa passion pour ces régions-là. Mais en même temps, tout ce message qui se cache derrière est extrêmement important de cette banquise dont la surface diminue, puis qui est en train de condamner gentiment mais sûrement l'ours polaire, qui est un animal exceptionnel.
Et des populations.
Et des populations. Et
d'autres populations. Parce que l'ours, on verra avec vous, moi je suis très sensible aux ours, c'est très joli un ours. Enfin, il y a des gens aussi auxquels il faut parfois aussi s'intéresser, me semble-t-il. Petit exercice obligé, Dominique Gachou. Vous nous feriez, tel que vous le connaissez, le portrait de Daniel Rohrbacher.
Daniel Rohrbacher, je dois dire que c'est un... Bon, d'abord, c'est la passion. C'est l'endurance aussi. Une volonté incroyable. C'est le courage aussi. Presque...
Inconscient.
Presque de la témérité, des fois, quand il m'explique qu'il se promène à 10-15 mètres d'ours polaire dans des zones extrêmement hostiles. Et j'ai beaucoup d'admiration. Je dirais que dans son genre, il a un peu du Erhard Loretan, je veux dire. Oui. Lui, il faisait dans des sommets, gravissait des sommets. Daniel Rohrbacher, lui, va se promener dans des régions qui sont aussi hostiles, qui sont habitées par des animaux particuliers. Et il fait aussi passer ce message, comme Erhard Loretan, quoi, sur la planète, finalement. Parce que c'est quand on est dans ces endroits-là qu'on se rend compte que notre belle planète bleue est en danger et qu'il faut que...
Il faut la défendre.
Il faut la défendre, oui.
Donc, le courage et la passion.
Le courage, la passion, l'endurance aussi, la ténacité.
Et le goût du partage.
Et le goût du partage, l'amitié, un gros cœur.
Je vous propose d'écouter une première chanson, puis nous allons parler de ce voyage et de ces ours blancs qui vous tiennent tant à cœur. On écoute Mary Sue. C'est très beau, c'est tout simple. Une voix, une guitare, un flûteau par derrière. Wizard Flurry Home.
One, two, three.
Donc, fort belle voix, c'est très agréable. Et avant d'aller arpenter les glaciers et les moraines de cet archipel du Nord, petit tour sur les routes du Valais, en l'occurrence.
Infotrafic RSR.
En Valais, la route reliant Brigue à Sion est fermée dans les deux sens, entre Soustonne et Sierres, en raison d'un accident. Un parcours alternatif est toutefois possible via la localité de Salkenen. En revanche, le trafic est à nouveau fluide sur l'ensemble du contournement de Genève. Voilà, c'est fait. Vous êtes donc parti, Daniel Rohrbasser, dans l'archipel de Svalbard. Alors, si on dit Spitzberg, peut-être que ça dit un peu plus de choses à certaines personnes. Mais enfin, dites-nous où se situe cet archipel, donc.
Alors, l'archipel de Svalbard, c'est peut-être 700-800 kilomètres au nord du Cap Nord de la Norvège, donc tout au nord de la Norvège.
C'est très au nord, donc.
Et puis, c'est
par
plus...
rapport au cercle arctique enfin, qu'on
on
visualise
loin,
à peu
loin,
près.
On est loin au-dessus. C'est à le milieu du Spitzberg, c'est environ 79 degrés de latitude nord. C'est vraiment très,
ça
très haut.
Ça correspond,
au, ça correspond au tout à fait le nord du Groenland.
Quoi. Et combien de degrés pour aller au...
Au 90.
Oui. Ah bah 79, le pôle Nord c'est 90 degrés.
Oui, j'ai envie de dire oui, j'espère que je ne me trompe pas.
Oui, j'en sais rien. 90 voilà. degrés Nord, c'est le pôle Nord.
Voilà, ouais.
79, c'est pas loin en effet.
Exact. Et puis alors, là, on appelle l'archipel de Svalbard un chapelet d'îles, dont la plus grande est le Spitzberg, qui doit faire à peu près 41 000 km² et un peu plus grand que la Suisse. Et voilà, c'est un endroit qui est habité juste par environ, comme ça, je dirais 3000 habitants, 2000 personnes qui vivent à Longyearbyen, c'est la ville principale où atterrissent les avions, puis après il y a encore deux cités minières, Barentsburg et puis Svea, où on extrait encore du charbon, et là je ne sais pas exactement combien de personnes y travaillent.
Terre accueillante ? Je ne parle pas des gens, hein, mais...
La terre...
C'est un peu nu, tout ça.
Ça dépend un peu quand on y arrive.
Minéral.
Je crois que si on y arrive en plein été, donc l'été est très court, c'est juste un mois, le mois de juillet.
J'ai eu peur, c'est juste un jour.
Ah, c'est...
faut pas se louper, un jour.
Ouais. Donc l'été, c'est le mois de juillet. Le mois d'août, c'est déjà l'automne. Et après, de septembre au mois de juin,
oui,
c'est l'hiver. Ouais.
Donc vous y arrivez à la fin de l'hiver ?
À la fin du mois d'avril.
Oui, il y a encore de la neige.
Il y a encore de la neige, tout est blanc, il peut encore faire très froid. Ouais. Voilà.
Ouais. Pourquoi vous êtes allé là d'ailleurs ? Dans des lieux, si j'ai bien compris, dans lesquels vous aviez déjà voyagé.
Je suis déjà allé quelques fois là-bas, ouais. Oui. Parce que je pense que c'est l'endroit qui permet le plus facilement d'approcher ou d'observer des ours polaires.
Donc c'est franchement le but, c'est d'aller
c'était
voir,
vraiment le but.
C'est de suivre la trace des ours
voilà.
blancs
ouais.
et puis d'aller les rencontrer. Parce qu'apparemment, ils sont relativement nombreux dans la région.
Oui, dans la région, on estime qu'ils sont... Oh là, je crois que c'est à peu près 5000 dans les eaux de la mer de Barents autour de l'archipel de Svalbard, un peu vers la Russie aussi. Je crois qu'on estime à peu près à 5000 leur nombre.
Oui.
Je crois
ah oui,
que c'est ça. Je ne suis pas tout à fait sûr de ce chiffre. Par contre, on sait qu'il y en a entre 22 et 29 000 en Arctique d'une manière générale.
Mmh. Alors, racontez-nous quand même la première. Enfin, je ne sais pas si c'est la première, parce qu'il y a un moment, vous racontez, là, vous avez eu la gentillesse de m'envoyer un petit dossier dans lequel vous mettez quelques anecdotes, quelques souvenirs, voilà, quelques images. Et puis, il y en a une qui est quand même hallucinante. C'est-à-dire que vous êtes avec des amis, comme ça, dans la nature. Enfin. Mmh. Et puis, d'un coup, vous regardez derrière votre camarade et qu'est-ce que vous apercevez ?
Mmh. On venait d'arriver en motoneige à une cabane. On a fait très peu de déplacements en motoneige, mais c'était à 100 km. Il fallait faire l'aller-retour dans la journée. Et là, on est allé amener de la nourriture, du matériel, parce que j'allais y rester après quelques temps. Et en arrivant là-bas, on a tout de suite vu des empreintes autour de la cabane. Alors mon ami Anton, avec moi, lui, il a une grande expérience. Il a hiverné plusieurs fois, même seul, dans ces régions-là. Il a analysé ses traces, puis il en a conclu que c'était un mâle et un plus jeune, donc pas passé en même temps, et puis que probablement ils n'étaient plus là du tout. Alors on était trois, donc on a partout regardé, partout la vue portait, on s'est mis un peu en altitude pour voir, on n'a rien vu. Sauf qu'il y avait des traces vraiment partout.
Et fraîches. Difficile à dire.
Difficile à dire, en tout cas pour moi, mais selon Anton, certaines étaient fraîches, mais enfin, on n'a pas vu d'ours polaire, donc on était tranquille. Et tout à coup, on a vaqué à nos occupations, on a estimé que tout était en ordre. Mais quelques minutes plus tard, un grand mâle est passé juste entre nous. Donc, je pense à 5 à 10 mètres du dos de mon ami Anton, qui était occupé autour de sa motoneige. Il n'a pas du tout vu ce qui se passait. Moi, j'étais peut-être à 15, 20 mètres de là. Avec l'autre personne. Et puis voilà, il a passé là entre nous, très très calmement, regardant à gauche, à droite, sans jamais ralentir, sans s'arrêter, entraînant sa patte, en posant...
Quel sentiment, là, à ce moment-là ? Quels sont les sentiments qui vous agitent ?
Alors,
en même temps, il y a un peu de peur, quand
même. Je
pense
qu'il y a eu, sur ce moment-là, il n'y a pas eu beaucoup de fascination, il y a eu plus le souci, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour faire juste maintenant ? Anton, il ne l'a pas vu. Moi, ça faisait 3 jours que je venais d'arriver, je n'avais pas... qu'il aurait fallu avoir sur
vous
moi.
Vous n'aviez pas les bons réflexes nécessairement.
Mais j'avais rien sur moi. J'avais normalement, il faut avoir des fusées éclairantes pour faire du bruit. Il faut avoir, faut surtout pouvoir faire du bruit. Et j'avais absolument rien du tout. Je m'étais vraiment fié 100% à Anton. J'étais avec lui. Je risquais absolument rien. J'avais pas à me soucier de ça. Puis en fait, j'étais pas avec lui à ce moment-là. Et puis un ours est passé par là. Mm-hmm. Mais le temps d'avoir ces quelques réflexions, et il était déjà plus loin. On voyait qu'il allait poursuivre sa route. Et puis
vous essayez d'appeler votre camarade.
Alors je l'ai appelé deux fois très doucement, justement, oui, pour pas.
Anton. Il y a un ours.
Voilà, c'était un peu ça. Pour ne pas amener de stress en plus. Et puis finalement, il m'a entendu, mais tout s'est bien passé. Quoi.
Puis quelques temps plus tard, quand vous revenez vers la motoneige, l'ours a boulotté la moitié de la selle. Donc, hein.
Oui, donc, ça c'était déjà en arrivant, il avait pris la moitié avec.
D'accord, ouais. Il avait déjà emporté la moitié de la selle avec la mousse et tout ça. L'ours blanc, le plus, enfin, c'est ce qu'on lit, hein, c'est ce que je lis d'ailleurs dans vos dossiers, le plus redoutable et le plus dangereux des carnivores de la planète. C'est-à-dire, comment on décide qu'un animal est le plus dangereux des animaux? Il y a des statistiques, c'est lié au nombre de morts, d'accidents, c'est lié à sa taille, son poids, sa vélocité, enfin je ne sais pas, sa cruauté, j'en sais rien.
Ça c'est une phrase vraiment typique comme ça, clé, qui m'est restée dans la tête suite à quelques rencontres que j'ai fait avec des gens qui habitent là-bas. Et j'ai eu la chance de faire quelques petits portraits comme ça, d'enregistrer quelques rencontres. Et puis là, je me rappelle d'une dame, elle s'appelle Hilde, qui de temps en temps, pendant ses loisirs, elle va tout simplement remplacer un trappeur qui s'appelle Tony Sandal, qui vit, il chasse donc à longueur d'année probablement les renards blancs et les phoques. Et il vit dans une cabane seule quelque part au sud de l'île du Spitzberg. Et de temps en temps, elle va le remplacer quand il va en vacances.
Le remplacer. Alors, elle va faire frappeuse.
Elle va faire son travail.
D'accord. Ouais.
Alors, elle a une immense expérience de ces animaux-là. Et puis, c'est elle qui le dit. Alors, ces mots sont les siens. Moi, j'aimerais des fois plutôt voir l'ours polaire un peu comme Emmanuel Husnet, ce Français qui a écrit un magnifique livre, Le Baladin des glaces, mais il y a déjà assez longtemps, bientôt 20 ans. Mais lui voyait cet animal d'un côté beaucoup plus romantique, poétique, et sachant que c'est un animal, l'ours polaire, qui peut détecter les phéromones, c'est-à-dire qui ressent probablement très très fort ce qu'on ressent nous aussi. Je pense que si on y va vraiment avec beaucoup de passion, de bonnes intentions, un immense respect, peut-être que les rencontres peuvent bien se passer. Alors il y a aussi cette pensée-là qui peut exister, pas seulement celle d'un animal extrêmement sauvage. Et puis et aussi comme il était décrit dans les anciens textes des premiers explorateurs dans ces régions-là, qui en faisaient vraiment un animal hyper sauvage.
Monstrueux.
Enfin, voilà, c'est pour ça qu'ils le massacraient aussi, c'était terrible.
Donc se mettre malgré tout sur la trace des ours polaires, c'est prendre non seulement un, parce qu'il y a quand même un risque malgré tout, mais c'est en prendre deux à mon sens. Alors le premier est celui de se faire attaquer, avec évidemment un peu de chance d'en réchapper, du moins je suppose, parce qu'une grande gifle d'un ours blanc, ça doit laisser des traces. Et puis le deuxième, c'est celui de devoir à un moment tuer l'animal, par exemple. Parce que vous partez armé. Alors vous dites des fusils éclairants, faire du bruit, etc. Ça suffit? Vous y songez, c'est-à-dire que vous dites à un moment, si je suis nez à nez avec un animal qui fait, je ne sais pas, mais ça fait 4,50 m de haut, 3 mètres, enfin, je ne sais pas, c'est gigantesque.
Je peux juste dire le poids, les plus grands au Spitzberg, c'est environ 700 kilos, et le plus grand observé au nord du Canada, c'était plus de 1000 kilos.
Donc ça fait quand même une très très grosse bête, donc on se retrouve nez à nez avec ça, on se dit, je suis armé, j'ai une solution pour m'en sortir, même s'il n'est pas apparemment agressif, mais c'est tiré.
Alors, c'est pas juste une pensée, c'est presque une pensée obsédante de se demander mais comment on va réagir si ça se présente.
Un
ami m'a dit une fois, toi tu dois faire attention avec tes voyages en Arctique parce que je sens que t'es pas du tout prêt à tirer sur un ours polaire si une fois ça devait arriver. Oui. Puis effectivement, c'est une question que j'ai posée à beaucoup de monde là-bas en haut, ça doit être un geste extrêmement... et on sait pas si on arrivera à le faire ou pas, mais bon après... Après, il y a plein de choses qu'on peut faire pour que ça se passe bien. Et puis, je pense que c'est là qu'il faut mettre toute sa concentration. Et puis, si possible, ne jamais être seul. Alors là, on minimise grandement après les risques que ça se passe mal pour l'ours. Et puis, toujours avoir moyen de fuir, c'est-à-dire ou en motoneige ou en... ou je sais pas, en bateau, mais là j'étais souvent effectivement à pied ou à ski, et là c'est plus compliqué. Alors,
sur le dossier, là, il y a une magnifique photo, vous en avez fait d'ailleurs un très très beau, très grand poster comme ça en long, une sorte de panorama. Mm-hmm. Il y a magnifique, il est splendide, il est hiératique, il est fier, serein, il regarde au loin, et On a l'impression que vraiment vous êtes sous son nez là. Hein.
Ouais, là on est très près. En fait, tout à la fin de mon voyage, j'ai eu la chance de rentrer avec un bateau qui tentait le tour de l'archipel de Svalbard, le bateau de Christian Kempf. Ça, c'est un homme qui est vraiment très très passionné depuis longtemps par ces terres arctiques, a une grande connaissance et puis qui guide des gens là-bas avec beaucoup de respect des animaux. J'aurais différents exemples que je pourrais donner. Et alors sur son bateau, quand on observe un animal quelque part au loin, sur la côte, ou même qui est en train de nager, ça arrive qu'on mette les zodiacs à l'eau et puis qu'on s'approche, mais alors avec beaucoup de respect, beaucoup de distance, c'est vraiment très très bien fait, quitte à rebrousser chemin si on voit qu'on met un peu de stress chez l'animal. Et puis c'est à cette occasion-là que j'ai pu faire cette photo-là. Là, on était peut-être à 15 mètres de cet ours.
Elle est magnifique, cette photo. Mmh. Et puis alors, il n'y a pas que les photographies, il y a aussi beaucoup de dessins, de croquis, des croquis de glaciers, d'amas de rochers, des rochers. Il y a un très beau croquis dans des rochers dans lesquels se dissimule l'ours. C'est un ours-rocher ou un rocher-ours, je ne sais pas. Mmh. C'est en tout cas comme ça que vous le sublimez. Vraiment comme appartenant intégralement à cette terre.
Oui, et puis du dessin dont vous parlez, donc ça c'est un des projets pour la future exposition dans les traces de l'ours blanc. Mmh. Ce que j'ai envie de montrer avec cette exposition-là, c'est que c'est justement de ne pas en montrer, mais de le dissimuler, parce qu'effectivement il est en difficulté cet ours polaire. Après, ça dépend aussi qui on écoute. J'ai rencontré des gens là-bas qui en ont vu énormément des ours polaires, qui ont vécu avec, qui ont hiverné des années complètes et qui me disent « Mais écoute, ils sont en bonne santé, j'ai l'impression qu'il y en a toujours plus, ça se passe bien, il faut faire attention avec les titres un peu à... »
Enfin, scandale,
je ne sais pas
ouais.
comment le dire, mais il ne faut pas trop se laisser impressionner par ça. Il faut bien écouter ce que disent les gens d'ici. Mais malgré tout, il n'en reste pas moins que les eaux arctiques sont très polluées, que cet animal il en subit de plein fouet les conséquences.
Alors précisément, vous qui connaissez bien ces régions, j'imagine que l'ours blanc, entre autres animaux et symptômes, est l'un des paramètres de la dégradation des conditions environnementales. Elles sont visibles comment ?
Alors pour mon œil qui est finalement très peu là-bas, j'ai très peu de moyens de comparaison. Donc
ça
serait un peu simpliste de comparer mes photos de 2000 avec celles de 2010 puis de dire voilà, le glacier a reculé de temps. Par contre, si on parle avec les gens, et là je viens peut-être plus au Groenland pour parler des gens, il y a des endroits où dans les années 70, il y avait 8 mois par année de la glace vraiment solide comme autour de l'île d'Oumanak. Et une glace sur laquelle les gens pouvaient se déplacer, même en camion, pour aller d'un village à l'autre, d'un côté du fjord à l'autre. Et aujourd'hui, les derniers relevés de glace de ces régions-là, depuis 2004 plus ou moins, il y a des fois un mois de glace, mais fragile, dangereuse. Il y a des années, il n'y en a pas du tout, comme en 2005. Il y a des années où il y en a juste 2 semaines. Enfin, la différence, elle est immense. Voilà, ça c'est des choses que les gens sur place constatent chaque hiver, quoi.
Régulièrement. Ouais. Mm-hmm. D'ailleurs, les scientifiques le disent, donc il n'y a pas de raison de ne pas les croire. Ouais. On a tendance à ne pas les croire, d'ailleurs. Hein.
Après, par exemple, aussi, un exemple que j'ai peut-être pu constater moi-même, c'est que mon ami Anton, il a des chiens polaires là-bas en haut, avec lesquels il fait des sorties. Des sorties assez engagées, assez au nord des terres. Et puis, il y a encore 10 ans, il pouvait vraiment passer par le fond des fjords, alors que maintenant, il doit passer par les montagnes, parce que ces fjords, ils sont libres de glace la plus grande partie de l'hiver, quoi.
Donc, c'est un véritable symptôme. J'aimerais lire dans ce dossier, alors vous le dites, hein, ce sont des textes bruts, c'est-à-dire que ce sont ceux que vous écrivez sur place. Vous les avez
pas
retravaillés.
Voilà, sous tente après ou dans
vous
la cabane.
Vous avez montré vos carnets, c'est un truc hallucinant. Ouais. Vous n'arrêtez pas d'écrire, en fait.
Bon, je m'occupe le soir, comme ça, enfin bref,
ah,
quand
oui.
j'ai...
Oh,
oui.
Ah, vous vous occupez vraiment. Et alors là, vous êtes à arpenter le glacier du Nordenskjöldbreen. Et c'est Maureen, vous êtes à ski et vous racontez « Je m'arrête tout net. J'observe attentivement les alentours. Il y a partout des spots de neige, suspects, au loin, de grandes pierres rondes et jaunes qu'il faudrait peindre en rouge tant elles me font frissonner. Si je ne surprends pas précisément l'endroit où quelque chose bouge, alors je cesse machinalement de respirer pour retenir les derniers petits bruits, localiser les tout petits cailloux qui roulent encore. Mais là, c'est différent, c'est certain, cette fois, il, l'ours évidemment, arrive. Ce murmure est bien trop régulier pour n'être que le printemps sur la moraine. J'entends maintenant nettement son pas lourd et régulier. Il me semble presque ressentir une vibration. Il doit être tout près. Je me retourne, analyse quelques cailloux étranges, scrute chaque forme évocatrice, et soudain, je résous l'énigme et ris en reconnaissant mon sang qui circule à grand fracas dans mes veines, tout bousculé qu'il est par tant d'émotions et d'incertitudes, obligé de circuler efficacement pour garder mon corps en alerte. Par moments, j'oublie un peu cette présence menaçante, puis rapidement, elle me rattrape et diffuse une nouvelle vague d'adrénaline. J'avais caché en moi la crainte de refuser l'obstacle et de ne pas oser franchir cette étape vers un engagement plus important. Il faut préciser que j'ai déjà vu 3 ours polaires tout près d'ici et que le relief se prête à merveille à une rencontre nez à nez du type « c'est la triple crise ». On reviendra sur cette histoire de triple crise d'ailleurs. Pendant ce temps-là, on écoute un très beau titre, oh, les années 70, c'est « Yes and you and I ». Il faudrait pouvoir continuer, mais on n'a pas le temps, parce que ça dure 14 minutes, donc ce ne sera pas possible. Alors, Daniel Rohrbacher, il y a l'aventure, il y a les voyages, les rencontres, les photographies, etc. Mais il y a aussi un autre pan de votre activité qui consiste évidemment à transmettre, à témoigner, à partager. Et vous avez choisi un mode d'expression tout à fait singulier, entre autres, mais la photosculpture. Dominique Gachou, puisque vous avez à charge finalement de recevoir parfois ses œuvres, de les exposer, ces photos... Ces photosculptures, ce sont des œuvres à part entière, évidemment. Quelle impression vous font-elles, à vous déjà, dans un premier temps ?
Ben, je pense que ça colle parfaitement à cette nature de l'Arctique, parce que l'arrière-plan de la photo vous met vraiment dans le contexte l'animal, et puis après, la sculpture de Daniel, la sculpture en bois, vous présente l'animal. Donc je trouve que c'est une excellente façon de restituer l'animal dans son contexte. Et d'avoir c'est quelque chose qui est assez original, j'avais jamais vu ça avant de les voir présenter à notre exposition, enfin l'exposition là, qu'il a organisée en 2007. Nous en avons acquis et je dois dire que c'est toujours un plaisir, c'est un moment qui évoque de très beaux souvenirs. cette exposition en 2007 où, comme l'a si bien dit Daniel avant, il habitait le bâtiment vraiment de sa grande silhouette. Là, chaque fois que je passais des fois chercher des dossiers le samedi ou le dimanche,
là,
je le voyais là dans infatigable. Sa silhouette planant sur l'exposition, en train d'expliquer à ses visiteurs avec son professionnalisme, avec sa passion, tout ce qu'il avait vécu, de transmettre son message aussi sur ces régions-là. C'était vraiment un très très grand moment. Je me souviens le dernier soir de l'exposition, là j'étais de l'autre côté du boulevard et il avait posé un trépied avec son appareil de photo là, et il est en train de photographier une dernière fois cette exposition, ce lieu qu'il avait habité pendant plusieurs semaines. Nous avons organisé beaucoup d'expositions au Kaléidoscope. Je crois dire que Daniel a peut-être celui qui en a fait des meilleurs usages.
Et on réexplique un peu, donc vous réalisez des photos vraiment magnifiques, des photos avec des formats en long, des panoramas, hein, vous appelez
oui,
ça.
Oui, exactement.
Donc long, je ne sais pas quelle est la longueur d'ailleurs, moi je n'ai jamais vu
en vrai. Les prochaines,
elles
feront 1m40 sur 60 cm de haut.
Ah oui, donc 1m40, ouais. Et puis devant, vous mettez une œuvre que vous avez vous-même sculptée dans du bois, parce que vous avez appris la sculpture sur bois, dans une école d'art. Enfin, vous ne faites pas ça n'importe comment, vous faites ça admirablement bien. Ça vous est venu comment, cette envie d'animer la photo ou de faire vivre la sculpture?
Bon, j'ai toujours fait beaucoup de photos. Et je pense que la première étape, c'était de photographier simplement des structures de rochers dans nos gastrozènes ou du granit dans le Mont Blanc, et puis de refaire la même chose en bois. Puis à un moment donné, j'ai superposé les deux choses. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait deux phénomènes qui étaient en train de s'installer. C'était d'une part, c'est que la sculpture sur bois commençait à intéresser plus personne. Donc plus personne commandait de ces objets traditionnels comme on faisait encore il y a 20 ans, des armoires fribourgeoises ou des écussons, enfin ces choses-là. Puis d'un autre, je remarquais aussi que en les intégrant sur une image, du coup l'image elle appelait les gens et là elles avaient une nouvelle vie, ces sculptures. Alors ça m'a permis effectivement de prendre un virage il y a une quinzaine d'années, puis de redonner une nouvelle vie à mon atelier de sculpture en l'associant à la photographie.
Les populations du Svalbard par exemple connaissent vos œuvres?
Non,
ah.
Pas du tout non.
Et vos bouquins?
Alors bouquins,
parce que
vous
en avez rencontré
avant,
on a parlé de l'ours blanc, hein. Bon, évidemment que vous rencontrez de l'ours blanc, mais enfin pour causer avec c'est pas simple,
oui.
On sent bien. En revanche les populations, oui, ouais. Sont des populations chaleureuses, accueillantes, qui ont des tas de choses à dire sur leur vie, qui ont une vie pas toujours facile, pas toujours évidente, et vous les rencontrez, vous leur envoyez vos livres par exemple.
Alors le livre c'était un projet qui s'est toujours pas réalisé, et puis que cette fois
j'ai enfin trouvé
quelqu'un avec qui on va faire Manuel Gavier,
2012,
son laboratoire Diaprint, on va le faire en 2012, on est une équipe super, cette fois ça va jouer.
Sur la trace des ours.
Sur la trace de l'ours blanc, oui.
Au Svalbard.
Exactement.
Donc ça, vous l'enverrez. Vous avez lié des amitiés, par exemple,
là-bas?
Oui,
je pense avec quelques personnes, il y a des liens qui sont petit à petit en train de s'installer, oui. Et quelque chose qui m'a beaucoup aidé, justement, cet été, c'était d'aller vers eux avec un micro, justement, pour essayer de recueillir leurs témoignages. Et puis, c'était un contact qui était vraiment, vraiment très, très chaleureux et puis très investi aussi de leur part. Donc, la discussion.
Sur l'épaule?
Oh, il n'y a encore rien de fait.
Il n'y a
encore rien du
fait.
Tout. Non, pour l'instant, c'est pour moi et j'espère que ça sera à la hauteur. Mais, pour l'instant, c'est juste pour moi.
Oui.
Mais ça a permis aux gens d'aller beaucoup plus profondément dans les discussions. Et puis, quelquefois, c'était vraiment extraordinaire. Alors, je pense que oui, là, il y a quelques, en tout cas, souvenirs forts qui vont rester. Si une fois on se rencontre, on s'en rappellera, quoi.
Puis alors, il y a une autre manière de partage à destination des plus jeunes. Ce sont des séries de conférences que vous donnez dans les écoles avec tout un matériel que vous vous êtes fabriqué. Vous sentez les jeunes réceptifs à ce que vous leur montrez, à ce que vous leur racontez?
Alors le premier cycle de conférences, je l'ai fait sur tout un tas de sujets liés à l'Arctique, le réchauffement, mais aussi comment vivent les gens là-bas ce réchauffement, qu'est-ce qui se passe avec les saumons ou qu'est-ce qui se passe avec pas seulement avec les ours, mais peut-être les bœufs musqués aussi, les sternes arctiques. Enfin, c'était toute une palette comme ça de sujets et je me rendais compte que certains sujets les captivaient beaucoup plus que d'autres, notamment celui de l'ours polaire. C'est pour ça que cette nouvelle présentation dans les écoles, elle est essentiellement orientée sur l'ours polaire parce qu'à lui seul, il permet de partir sur tout tas de sujets. Comment il s'isole si bien du froid? Comment ça se fait que sur des photographies à infrarouge, on le voit même pas? On voit juste son haleine. Alors il y a plein de choses techniques qu'on peut aborder par ce biais-là. Après, son intelligence, comment il chasse au début du printemps, à la fin du printemps, au début de l'été, c'est chaque fois différent, il s'adapte aux situations. énormément de sujets différents et je me rendais déjà compte alors lors de ce premier cycle que les jeunes étaient beaucoup plus attentifs dès qu'on parlait de cet ours, de ses nuits sous tente, de tout ce qui peut se passer pendant ces moments-là. Alors je pense que ça va vraiment être bien accueilli et ça a été très bien accueilli aussi ce premier cycle, quoi.
Je considérais que le périple que vous avez fait, là, 3 mois en voyage entre les avions, le logement, la nourriture, le matériel, tout ça coûte, je l'imagine, relativement cher et demeure impossible sans aide financière. Alors, je ne sais pas si vous, Dominique Gachou, vous intervenez dans un soutien de ce type-là, mais comment on fait? Comment vous faites, vous, par exemple?
Il faut utiliser toutes les possibilités. La première, c'est de dépenser le moins possible, c'est-à-dire dormir sous tente, dormir chez l'habitant, faire les choses
vous
le plus simplement possible.
Vous faites un budget avant de partir en disant, il va me falloir pour 3 mois, il va me falloir, je sais pas, 8000 francs, enfin j'en sais rien, 10 000, 12 000, peu importe. Vous faites comment?
Je fais pas forcément un budget parce que les grandes dépenses, non, parce que les grandes dépenses sont les déplacements. C'est-à-dire l'avion pour aller sur place, le bateau si je dois en prendre un, le retour en bateau. Après, se nourrir sur place, il faut le faire en Suisse aussi. Et puis ça, c'est des dépenses que je considère pas vraiment dans mon budget. Donc c'est les déplacements, on a vite fait le calcul. Après, s'il y a 2 vols, il y a 2000 francs, etc.
Ah oui, donc c'est finalement pas les voyages.
Non, la manière dont je l'ai fait, c'est pas des voyages chers. Mais c'est vrai qu'on peut. Je me rappelle du tout premier voyage qu'on avait fait au Spitzberg en 2000. On avait rencontré des gens sur place qui voyageaient avec une association. Enfin bref, et ces gens nous disaient que leur voyage coûtait à peu près 1000 francs par jour. Alors que nous, on avait pour un mois pratiquement, pour un mois qu'on était en route, on avait dépensé environ 4000 francs.
Ouais. Ah oui, d'accord, mais c'est pas la même vision du voyage. Dominique Gachou, je ne doute évidemment pas de vos qualités humanistes, mais en même temps, une entreprise, c'est pas une œuvre philanthropique. Qu'est-ce que ça peut rapporter? Alors, parlons pas nécessairement de Daniel Rohrabacher, c'est encore une autre affaire, mais qu'est-ce que ça peut rapporter à une entreprise qu'un mécénat, qu'il soit sportif, artistique ou plus atypique comme ce que fait Daniel Rohrabacher? C'est-à-dire quel retour sur investissement, comme on dit dans le monde de l'économie?
Alors, le retour sur investissement, il est multiple. Il y a d'abord la visibilité de l'entreprise. L'entreprise groupée est issue de la fusion des ex-entreprises électriques fribourgeoises, Électricité Neuchâtel-Oise-Essa. Donc, il s'agissait de faire connaître ce nouveau nom, cette nouvelle société. Et là, on a mis l'accent aussi sur le sponsoring pour faire connaître ce nom. Donc, visibilité, mais je dirais qu'il y a aussi, alors après, le côté d'image et valeur que l'entreprise veut promouvoir dans la société. Nous avons l'axe, par exemple, des sports d'équipe. Les sports d'équipe, particulièrement dans les sports d'équipe, la relève dans des équipes de football, dans des équipes de hockey, parce que nous estimons qu'il est bien de permettre à ces jeunes de pouvoir pratiquer un sport, de leur offrir des loisirs intéressants, plutôt que les laisser dans l'oisiveté qui, comme on le sait, là.
Et mère de toutes les vices.
De tous les vices, voilà, vous l'avez dit. Donc il y a ce côté-là. En même temps, l'esprit d'équipe, ça forge aussi, ça développe aussi des valeurs qui sont après extrêmement utiles dans les entreprises, où maintenant, les entreprises peuvent réussir que s'il y a des équipes qui sont bien soudées. Les one-man shows, c'est terminé. C'est vraiment, si une entreprise réussit, c'est le succès d'une équipe. Bien sûr qu'il y a un coach, il y a quelqu'un qui doit indiquer des caps, qui doit finaliser des stratégies et tout, mais il y a quand même l'esprit d'équipe qui joue. Donc, développement d'esprit d'équipe, encouragement aussi à la jeunesse à pratiquer des activités de loisirs saines, visibilité de l'entreprise et aussi soutien à des artistes où là on rejoint, je dirais, le mécène des anciens temps ou de la Renaissance qui achetait des œuvres d'art pour permettre à des talents de se développer, de pouvoir vivre finalement de leur vie et produire des chefs-d'œuvre. Et là, tous les dirigeants qui, tant du côté des ex-CF que de l'ENSA, ont cultivé ce souci du mécénat en achetant des œuvres d'art à des artistes de la région. Et je pense que sans ce soutien, certains artistes auraient eu de la peine parfois à nouer les deux bouts. Ce qui fait que dans la collection, par exemple, des EF, on trouve les grands noms de la peinture fribourgeoise qui ont été acquis par les prédécesseurs sensibles à ce côté artistique.
Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre du devoir aussi, finalement, pour des entreprises, que d'investir dans la culture dans le sport, dans le développement durable, c'est-à-dire dans l'image de quelque chose qui représente éventuellement une vraie culture du développement durable. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre du devoir ?
Je le ressens comme ça aussi, ouais. qu'il y a un devoir d'apporter à la société, les entreprises qui ne sont pas, je dirais, menacées de perdition. Mais évidemment, si vous devez lutter pour votre survie, que chaque franc et chaque centime compte, je pense que c'est une responsabilité vis-à-vis de la société, des entreprises, d'encourager cette culture, d'encourager le développement de l'art dans leur région. Mmh. Je crois que ça fait partie du devoir, effectivement.
Des entreprises.
Notre responsabilité sociale, on parle dans le développement durable. Il y a un axe économique, c'est clair, mais il y a l'axe, évidemment, climatique. Et puis, il y a cet axe sociétal ou encouragement du développement de la société. Et typiquement, le soutien à des artistes fait partie de cet axe sociétal.
Revenons un instant, Daniel Rohrbacher, à cet archipel de Svalbard. Cette fois-ci, vous êtes parti seul. Enfin, j'entends sans. Quand vous étiez venu en 2009, vous nous aviez raconté finalement un voyage de noces. Enfin, un peu sportif, mais enfin, c'était un voyage de noces. Et vous étiez venu avec votre épouse, Martine. Cette fois-ci, c'est pas le cas. Vous êtes parti tout seul pour une raison très très claire. Et donc, cette aventure qui vous a éloigné des vôtres. Il y a dans ce dossier une scène. Vous racontez une chose qui est absolument charmante et délicieuse. Et j'aimerais quand même que vous nous disiez deux mots de la sonde Zoélie.
Oui, c'est tellement joli. C'était une belle surprise. Donc, quand je me suis arrêté une dizaine de jours à Nialesun, c'est un village d'opérateurs, donc de gens qui font fonctionner tout un tas d'appareils destinés à mesurer le temps, la météo, l'humidité, enfin, puis c'est envoyé dans le monde entier pour les prévisions météorologiques. J'ai une fois participé à le lancement d'une sonde destinée à mesurer la colonne d'ozone. Et ça faisait quelques jours, j'avais un peu appris à connaître ces gens. Et puis tout à coup, au moment de lâcher cette sonde, il s'appelait Rudolf, il me tend un marqueur et puis il me dit, voilà, maintenant c'est de coutume, il faut que tu dédicaces cette sonde. Et,
à quelqu'un, là, donc à quelqu'un, c'est la coutume.
Ou marquer quelque chose, ou enfin, ce qui te passe par la tête. Et puis là, tout de suite, bien sûr, j'ai pensé à Martine qui était à la maison avec cette petite fille à qui on n'avait encore pas donné de nom, qui allait naître
Mais
bientôt.
Elle n'était pas née encore.
Elle n'était encore pas née, non. Et puis là, je savais que le prénom préféré de Martine était Zoélie. Alors j'ai marqué « Bienvenue Zoélie, papa ». Et puis on a envoyé cette sonde comme ça et elle a formidablement bien fonctionné parce que les précédentes avaient tous eu des problèmes assez importants, tandis qu'elle est montée, je crois, à 34 000 mètres d'altitude. Elle a pris ses mesures extraordinaires et puis elle a atterri, elle a atterri au fond du fjord. Après, j'ai reçu les relevés GPS avec une carte précise pour retrouver les restes de cette sonde si jamais... C'était vraiment... c'était émouvant. C'était
vous pourriez retrouver les restes de la sonde.
Oui, oui. Ouais, enfin bon, elle a atterri à quelques centaines de mètres d'un sommet qui culmine à près de 1000 mètres, tout près du glacier de la baie des Rois. C'est accessible.
C'est on était une fois sur le sommet de la baie des Rois.
C'est le fond de la baie de le fond de la baie des Rois où il y a justement ce village de Nialesun sur la côte ouest du Spitzberg. Mmh. Ouais, c'est justement à 79 degrés de latitude nord.
Elle va aller retomber là où elle était pratiquement là.
Pas
là
très
où
loin
elle
de là,
envoyée.
Elle est retombée en gros à 20 km. Alors ce jour-là était assez calme.
Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Donc. Mmh. Et vous n'avez pas été la rechercher ?
Non, parce que non, je ne suis pas allé, non.
Oh bah alors ?
C'est pour une autre fois. Ou bien peut-être Zoélie elle-même.
Zoélie, ouais, oui, certainement. Là, elle n'est pas en âge encore. Hein. Vous l'emmèneriez ? Elle est toute petite, certes.
Alors, enfin, j'aurais un immense souci, effectivement. Déjà, rien qu'avec Martine, quand on faisait encore on le fait moins maintenant, des tours en montagne, des fois, il faut aller grimper, etc. Je suis vraiment très en souci dès qu'il s'agit de la sécurité de ceux qui sont avec moi. Alors, je pense que j'aurais du mal. Par contre, si j'arrive à surpasser ce problème-là, ça serait magnifique de lui montrer ces endroits-là. C'est tellement riche, c'est tellement enrichissant, justement, et... Oui, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire.
Quand on est un peu aventurier, un peu même beaucoup aventurier comme vous l'êtes, devenir père, ça change quelque chose. Ça change quelque chose dans son rapport à l'aventure.
En tout cas, ça a changé quelque chose pour ce départ. Normalement, les départs, pour ceux qui me connaissent, ils savent qu'ils sont extrêmement chaotiques, qu'ils sont des fois même annulés. Et ce départ a été rendu possible, je pense, grâce à cette petite Zoélie. Parce que moi, je n'avais pas le sentiment de laisser Martine seule. Et puis, de son côté, Martine n'avait pas le sentiment qu'elle restait seule non plus. Donc, ça nous a tous les deux facilité un tout petit peu
Elle aussi était occupée à créer, finalement.
Ouais.
Voilà. Parce que chaque départ n'est pas, ce ne sont jamais des vacances. Vous partez vraiment, vous nous avez montré votre carnet de voyage. C'est hallucinant, vous écrivez sans cesse. Il y a ces carnets dans lesquels vous griffonnez, une espèce d'agenda dans lesquels vous griffonnez tout et n'importe quoi, dans un désordre effroyable. Donc ça n'est jamais du repos. Vous partez voir, vous partez regarder, témoigner, transmettre, fabriquer du matériel, le ramener. À quand la prochaine exposition d'ailleurs ?
Alors, il y a une date pour l'instant qui est retenue, c'est le 24 février dans la galerie Soleil de Minuit à Morges, celle de Frédéric Dorogui. Et on a retenu 24 février, donc c'est une soirée qui sera le vernissage de l'exposition qui va durer à peu près un mois, je pense, avec cette soirée aussi une conférence de justement Christian Kempf sur les glaces polaires. Mais ça sera plus une sélection un peu des pièces de la collection Ambiance Arctique, la précédente, avec quelques surprises, peut-être un avant-goût de la prochaine. Mais la prochaine, elle sera seulement prête dans une année. Mmh. Maintenant, j'ai ramené les dessins, les photos, les documents principaux. Il faut aussi que je passe du temps à l'atelier maintenant pour la construire, quoi.
Et puis maintenant, la nuit, vous ne dormez pas nécessairement aussi bien qu'autrefois.
Ça, c'est sûr.
Et à quand le prochain départ ?
Alors moi, j'ai rien de planifié maintenant encore avec beaucoup de précision, mais c'est sûr que le plus vite possible, j'aimerais retourner dans ces régions, continuer à ramener du matériel, continuer sur cette voie-là que j'aime bien poursuivre.
L'Arctique et l'Antarctique vous tentent infiniment moins ?
Alors l'Antarctique, d'abord il y a pas notre fameux ours polaire.
Non,
ensuite,
mais
on a parlé un peu des finances. Oui, enfin c'est fantastique partout, hein. Oui. Même le Gantrichsel est tout près de chez nous. Enfin, il y a des merveilles partout. Mais l'Antarctique, on parlait un peu de budget avant, et ça cadrait probablement pas du tout dans mes budgets. Alors pour le moment, ça reste l'Arctique.
Dernière question, mais alors elle n'a strictement rien à voir avec tout le reste. C'est histoire de pêcher un peu le scoop. Dominique, vous avez pris une décision quant à votre envie de succéder à Philippe Virdis à la tête du groupe E, directeur dont vous êtes actuellement le remplaçant, en attendant le successeur.
Vous êtes fort bien.
Mais non, il y a des journaux, on dit, il n'a pas pris sa décision, je ne sais pas, on va voir. On n'a pas encore fait vraiment, on ne sait pas, on n'a pas fait le casting. Enfin bon, bref, on est dans le flou.
Vous lisez bien,
les journaux.
Local,
hein,
oui,
ben
je vois
oui, bien sûr.
Vous êtes parfaitement informé. Alors, écoutez, oui, j'ai pris ma décision, oui.
On n'en saura pas davantage. Je le crains. Vous savez, vous, hein, Daniel Rohrbesser.
Pas encore.
Comment pas encore, mais si vous savez tout ça. Donc, vous allez dire oui, évidemment.
Je vais m'intéresser, oui.
Très bien. Non, mais parce qu'ils ont l'air de dire que ce serait plus simple si c'était vous. Qui connaissait bien le boulot et la boîte. Voilà. Plutôt d'en prendre un d'extérieur qui ne connaît rien, va falloir former, ça va être compliqué. Hein? Non, mais enfin, voilà, quand on est. Moi, je serais dirigeante, je dirais, mais je prends celui qui connaît. Vous faites comme vous voulez.
Merci.
On va surtout se quitter en musique parce que Dominique Gachou, vous aviez un souhait musical et qu'on va absolument. Auquel on va totalement accéder parce qu'il est une évidence. Pourquoi vous avez choisi cette chanson d'Yves Simon ? L'ourson,
parce que c'est en fait les oursons blancs dans nos bras. Parce que ça correspond parfaitement, je dirais, au thème de cette soirée. Yves Simon a sorti son dernier CD, il a sorti différentes chansons. Il y en a une sur Marguerite Yourcenar, il y en a une justement sur les oursons blancs. Je trouve que j'ai eu le privilège d'assister à son concert dans le cadre des Francomania 2008 là, à la Tour de Trem. Et j'avais été frappé par ce concert absolument exceptionnel. Yves Simon, c'est une personne géniale, accompagnée de Serge Perratonnerre, de grands musiciens, et qui présentait son nouveau CD. Et comme par hasard, il parlait des oursons blancs et il traitait aussi le thème que traite Daniel Rohrbesser, un petit peu cette crainte que le réchauffement climatique fasse disparaître l'ours polaire et qu'un jour, nous n'ayons plus la possibilité d'avoir dans nos bras des oursons blancs. Voilà, c'est le thème de cette chanson et je trouvais que ça permettait de bien illustrer le propos de cette soirée et le message de Daniel Rohrbesser concernant le réchauffement climatique.
Alors on va écouter Yves Simon. Auparavant, je vous remercie. Merci Dominique Gachou.
Merci.
Et puis bon vent donc, pour vos nouvelles fonctions. Merci.
Ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir.
Merci. Merci Daniel Rohrbacher. On attend de vos nouvelles sur la suite de vos aventures, qu'elles se fassent sur terre, dans le bois ou sur papier.
Merci, merci beaucoup à vous. Merci.
Et on écoute Yves Simon.
Un jour, c'est sûr, on oubliera qu'il y avait des banquises et le froid, les oursons blancs dans nos bras. Un jour, il y aura que toi et nous pour prier le soir à genoux, que la terre ne nous brûle pas. Un jour, c'est sûr, on oubliera qu'il y avait des banquises et le froid. Un jour, c'est sûr, on oubliera qu'il y avait des grêlons, des frimas, une mer de glace pour toi et moi. Un jour, c'est sûr, on oubliera qu'il y avait des neiges éternelles, des hivers longs, des hirondelles. Un jour, c'est sûr, on oubliera qu'il y avait les banquises et le froid.
Des oursons dans nos bras, des oursons blancs dans nos bras, extrait du dernier album d'Yves Simon. C'est la fin de cette émission, préparée avec les collaborations de Stéphanie Gauthier et Karine Deladoé pour la production, de Nathalie Schauenberg et Dominique Gachou pour les choix musicaux, et de Françoise Rochat pour la réalisation. Après les informations, vous avez rendez-vous avec des drôles d'histoires, des histoires choisies et racontées par Lolita. Je vous souhaite une excellente soirée. Nous, on se retrouve évidemment demain à partir de 20h03. Vous écoutez la première, il est 21h.